podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Desperate Housewives, c'est un feuilleton américain de 180 épisodes et 8 saisons diffusées sur le réseau américain ABC entre 2004 et 2012. Nous ne vous ferons pas l'affront de vous raconter l'histoire de cette série créée par Mark Cherry, réunissant Terry Hatcher, Marcia Cross, Felicity Huffman et Eva Longoria. Desperate Housewives connaîtra un départ tonitruant, un succès délirant dans le monde entier, des actrices devenues les stars des magazines, un marketing tournant à plein régime, avec des saisons annoncées à grand renfort de panneaux publicitaires démentiels et des annonces via Internet pour faire monter la pression. 8 saisons, des tonnes et des tonnes de dossiers sur le sujet des médias dithyrambiques. On revient donc sur ce succès, mérité ou non, on tentera d'y répondre d'ici quelques minutes en compagnie de Nathanaël Picasse et Sarah Sepulcre, bienvenue à vous deux.
Hello.
Salut.
La série qui se terminera dans une forme d'indifférence généralisée est encore célébrée par certains comme l'une des plus marquantes de son époque. Cependant, beaucoup de voix se sont élevées contre ce brouhaha médiatique dénonçant la qualité variable de la série. Populaire certes, mais mérite-t-elle pour autant qu'on s'y attarde? Mark Cherry est-il un créateur de séries de génie? Il est temps de faire le bilan et analyser ce phénomène en prenant du recul.
Je reconnais humblement, là je vais faire mon petit mea culpa, que j'ai été le premier, un des premiers à m'emballer pour la série, surtout devant ce rouleau compresseur, on va dire ça plutôt comme ça. Faut dire aussi, replaçons à l'époque, à ce moment-là, ABC, les gros réseaux, les grandes chaînes étaient en perte de vitesse, il y avait HBO à toutes les sauces et il fallait créer un gros succès. Et donc là, on sent qu'ils se sont dit, on va mettre le paquet, on va aussi faire une série qui est aussi un petit peu déjantée, qui est aussi un petit peu acide. On va faire un peu notre Six Feet Under à nous ou notre Sex and the City à nous, mais avec le problème effectivement de la pression des réseaux qui sera derrière, ça va écraser complètement la série et on verra très vite que ça va partir en sucette.
Mais mea culpa accepté.
Oui, parce qu'en plus, bon, faut dire avant même que la série débarque sur le petit écran, mon attention avait été aussi attirée par la nouvelle que c'était la nouvelle série avec Terry Hatcher. On sait à quel point j'aimais bien Terry Hatcher dans Lois et Clark. Et puis bon, le succès tonitruant des premiers épisodes aux États-Unis n'ont fait qu'attiser ma curiosité. C'est pourquoi j'ai tenu rapidement à regarder l'épisode pilote. Là aussi, ouais, j'ai été conquis par le ton de la série parce que l'épisode pilote, franchement, je me suis remis dans cette première saison en me disant, allez, parce qu'on sait à quel point quand j'ai fait mes droits de suite là-dessus, j'en ai dit du mal par la suite, mais je me suis dit, est-ce que je me suis trompé à ce point-là? Et non, vraiment, l'épisode pilote est vraiment bien. Il y avait ce petit quelque chose de rafraîchissant qui détonnait, déjà par cette séance d'introduction qui nous faisait entrer dans le ton de la série. On voit Marie-Alice Young qui, après avoir passé une journée comme les autres, laver sa maison, relever le courrier, avoir été faire des courses, prend un carton dans un placard, en sort un revolver et se tire une balle dans la tête. Et la séquence suivante, c'est sa voisine qui a entendu le bruit, qui veut satisfaire sa curiosité par rapport à ce bruit et trouve comme excuse de ramener le mixeur qu'elle avait emprunté à Marie-Alice 6 mois plus tôt pour venir sonner à sa porte. Elle découvre le cadavre, appelle la police et replace le mixeur dans son placard en prenant soin de retirer l'étiquette de la défunte propriétaire. Et là, on a la voix off qui nous dit, ben voilà, la voisine a toujours cette manière de voir le bon côté des choses. Moi, c'est ce genre de petite séance d'introduction, je me dis, allez, c'est chouette, il y a un petit côté mordant, sympa, piquant, et malheureusement que la série perdra très très rapidement. Ce que j'avais beaucoup aimé dans ce pilote aussi, c'était la présentation des personnages un peu à la manière d'un Amélie Poulain, avec des mini-scènes de vie qui, les personnages en quelques secondes, les personnalités sont bien croquées. Des scènes aussi très drôles avec Lynette qui est forcée d'aller chercher ses enfants dans la piscine alors qu'elle est en pleine veillée funèbre de Marie-Alice. Un mystère policier qui commence tout petit doucement. Effectivement, on voit le veuf de Marie-Alice qui se pose des questions par rapport à la piscine et puis on le voit creuser dans la piscine et on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train d'éterrer. Et puis des personnages en couleur avec la maniaque, la cougar, la riche qui trompe son richissime mari, la femme désespérée, la gaffeuse, etc. C'est vraiment une formule qui faisait mouche à l'époque et qui a fait illusion jusqu'à la fin de la première saison.
Et quoi alors? Il y a eu 7 saisons de trop?
Ben oui, il faut dire que les choses se sont très vite gâtées. En fait, Desperate Housewives a vite perdu son ton piquant qu'elle avait au début, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les premiers épisodes et notamment dans le pilote, c'est qu'il y a plein d'allusions sexuelles qui disparaissent complètement après. On rentre dans les rangs aussi, puisque le propos désabusé de Lynette, par exemple, non, être mère de famille, c'est pas la panacée automatique. politiquement. Elle, elle aurait préféré être une femme d'affaires. Et non, au contraire, c'est un discours qui laisse place petit à petit à quelque chose de plus rétrograde, voire même réac, qui est la famille doit être protégée avant tout, c'est ses enfants avant tout, et finalement, les femmes d'affaires, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et puis, il y avait aussi plein de petites scènes légères qui étaient soulignées par un petit air jazzy, qui amenait beaucoup de légèreté, je trouve, à ces scènes, et qui ont été remplacées par des scènes d'humour qui sont parfois drôles, mais souvent balourdes, avec ce petit jingle qui devient un peu la marque de fabrique de Desperatosa, et qui devient un peu assourdissant au bout d'un moment. Et puis, le plus grave, c'est l'incapacité totale des scénaristes à se renouveler au cours de cette saison qui suivront, à commencer par les personnages stéréotypés jusqu'à la nausée.
Je fus enterré le lundi suivant. Après les funérailles, tous les habitants de Wisteria Lane vinrent présenter leurs condoléances. Et, comme de coutume dans ce genre de situation, ils apportèrent de la nourriture. Lynette Scavo apporta du poulet rôti. Lynette avait une bonne recette qu'elle tenait de sa famille. Autrefois, elle ne cuisinait pas beaucoup. Occupée à gravir les échelons, elle n'en avait guère le temps.
Comme d'habitude.
Mais lorsque son médecin lui annonça qu'elle était enceinte, son mari Tom eut une idée. Pourquoi tu ne quitterais pas ton travail? Les enfants préfèrent avoir maman à la maison, c'est beaucoup moins de stress. Moins de stress, ce ne fut pas le cas. En fait, la vie de Lynette est devenue si mouvementée qu'elle est désormais obligée de commander son poulet rôti dans un fast-food. Elle aurait sûrement apprécié cette ironie si elle y avait réfléchi une seconde, mais elle ne pouvait
Arrêtez.
Pas. Elle n'avait pas le temps.
Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Stop, stop,
mais
ça
maman
suffit.
Gabrielle Solis, qui habite en bas de la rue, a apporté une paella épicée. Après avoir été mannequin à New York pendant des années, Gabrielle s'est découvert un goût pour la cuisine riche. Et les hommes riches. Carlos est spécialisé dans le rachat d'entreprise. Il lui a fait sa demande en mariage au troisième rendez-vous. Gabrielle fut touchée en voyant les larmes perler dans ses yeux. Mais elle découvrit très vite que cela se produisait chaque fois qu'il signait un gros contrat. Gabrielle aimait la paella chaude et épicée. Mais avec son mari, les relations étaient nettement plus froides. Brie Van de Kamp, la voisine d'à côté, a apporté des paniers de muffins faits maison. On sait que Brie cuisine bien, qu'elle confectionne elle-même ses vêtements, s'occupe seule du jardinage et réfectionne ses fauteuils sans l'aide de personne. Oui, Brie a de nombreux talents connus dans le voisinage et tous les habitants de Wisteria Lane voient en elle une mère et une épouse parfaite. Tous, excepté sa famille. Suzanne Mayer, qui habite de l'autre côté de la rue, a apporté un gratin de macaroni. Carl, son mari, la taquinait souvent avec son gratin de macaroni. Il disait que c'était le seul plat qu'elle sache cuisiner et qu'elle ne le réussissait pas toujours. Il était trop salé le soir où ils avaient emménagé dans leur maison. Les pâtes étaient trop cuites le soir où elle trouva du rouge à lèvres sur la chemise de Carl. Il était cramé le soir où Carl lui annonça qu'il la quittait pour sa secrétaire. Un an s'est écoulé depuis le divorce. Suzanne commence à penser qu'elle voudrait bien d'un autre homme dans sa vie, même d'un homme qui critique sa cuisine.
Et oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure, le téléspectateur a l'impression de regarder cet épisode encore et encore et encore. Chacun des épisodes est l'occasion de souligner jusqu'à plus soif le trait de caractère de tous les personnages. Suzanne, la gaffeuse, malheureuse en amour, Brie, coincée dans son rôle de femme au foyer parfaite, Gabrielle, la femme riche et égoïste, etc.
Marc Chéry te répondra que c'est une belle mise en abîme.
Oui, mais enfin, c'est une mise en abîme qui donne la nausée, quoi. C'est bien gentil. Après 8 saisons, tu peux t'attendre à ce que tes personnages évoluent un tant soit peu.
Il met le principe de l'anaplodiplose en fonction dans chaque épisode et puis il le remet sur la totalité de la série. Donc du coup, voilà, c'est la plus belle mise en abîme que puisse exister à la télévision. Non,
c'est surtout une mise en stéréotype.
Oui, c'est une mise en stéréotype et qui devient étouffante. Franchement, c'est malheureux, quoi. À chaque fois, quand tu regardes l'épisode, c'est à chaque fois une scène qu'on a l'impression d'avoir déjà revue avec une même réaction du personnage. Et donc on se dit, bah, ils apprennent pas de leurs erreurs, ils évoluent pas. Surtout qu'en plus, il y a 8 saisons, donc on part déjà sur au moins 8 ans. Et surtout qu'il y a un gap entre la saison 4 et la saison 5 de 5 ans. On est presque sur 15 ans d'évolution de personnages et qui agissent toujours de la même façon, quoi.
D'autant qu'en plus, on a l'impression que les personnages sont interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui disparaissent, elles sont remplacées par d'autres familles, mais qui ont exactement ou quasiment les mêmes stéréotypes, les mêmes identiques, les mêmes actions. Certains personnages sont remplacés par d'autres, on a l'impression d'avoir une copie conforme.
Le plus marquant, c'est le personnage d'Eddie qui disparaît, la garce, et qui est remplacé par une nouvelle garce, qui est globalement le même personnage, mais en version black. Voilà, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est un petit peu énervant. Le seul personnage qui a un tant soit peu évolué, c'est le personnage de Lynette, qui est présenté au départ comme la femme toujours désespérée, toujours dépassée par ses enfants, et au contraire, finit par devenir une forme de femme de tête, forte en caractère, castratrice pour son mari.
Et c'est drôle parce que c'est le personnage qui semblait, moi je trouvais, le moins investi au tout début. Je vous avoue tout de suite que j'ai vu que la première saison. Et surtout le moins investi par le marketing. C'est-à-dire qu'on a très fort parlé d'Eva Longoria, de Marcia Cross, de Terry Hatcher. Puis finalement, on avait cette fille, on voyait pas très bien qui c'était. Et donc, bizarrement, c'est ce personnage-là qu'on fait plus évoluer.
Oui, parce qu'elle était moins stéréotypée au début. Il y avait moins d'attentes aussi par rapport à elle. Et donc, ils ont pu la faire évoluer. Et ils l'ont fait quand même évoluer jusqu'à en devenir un stéréotype aussi de la femme un peu émasculatrice. Mais effectivement, c'est celle qui, en tout cas au cours de la saison 1, où il y a un peu d'air frais, en fait, qui arrive. Et puis aussi, il y a un éternel retour au même, parce que Mark Cherry va nous faire le coup pendant 8 ans, nous annoncer à chaque fois un changement, un nouvel arrivant, une nouvelle qui va tout bouleverser, un mystère incroyable, un événement spectaculaire, un mort, attention, quelqu'un va mourir, quelqu'un de hyper important, et à chaque fois, on est déçu, à chaque fois, on se fait avoir, parce qu'à chaque fois, c'est raté, c'est à côté de la plaque.
Mais c'est probablement une série qui a été piégée par son propre marketing, à la fois autour des actrices qui sont devenues des emblèmes et des icônes, on va pas citer les marques, et dont on sent qu'effectivement il y a un poids qui pèse sur la série, et aussi de vendre effectivement ce qui va arriver. Il faut faire les audimats, c'est sûrement les épisodes de Sweeps en plus, c'est-à-dire ceux sur lesquels on calcule les audiences pour la pub. Et donc c'est une série qui était un sauvetage ou une création face à HBO, tu l'as dit tout à l'heure, et aux chaînes câblées, et qui a été prise au piège de ça, non ?
Oui, et qui a été pris au piège du marketing, qui a été pris au piège de son propre succès, condamné à réussir à réitérer la formule pour essayer de... Mais le problème, c'est qu'à force de la répéter exactement la même, ça devient indigeste, et malheureusement, ça n'est pas passé.
Pourtant, elle était annoncée comme une révolution.
Et en fait, elle n'est absolument pas révolutionnaire, et on va en parler, elle se montre aussi extrêmement cruelle, en fait, comme série, et extrêmement violente.
Qu'est-ce qu'il y a ? Grand-mère est morte ?
Non, elle va très bien. Écoute, Andrew...
Mon chéri, il est évident pour nous que depuis quelque temps, tu es malheureux. Toutes ces réactions...
Fumer du cannabis, ta violence...
Tu n'es plus toi et nous pensons que tu as besoin de passer un peu de temps au calme, à réfléchir à ce que tu attends de la vie, à quel genre de personne tu aimerais devenir.
Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce qui vous prend ?
Il y a un endroit qu'on appelle le camp NSI. C'est un centre qui accueille les adolescents quelque peu égarés, comme toi.
Vous moquez de moi. Ils insistent sur la discipline, la responsabilité, deux choses dont tu manques cruellement.
Ne t'inquiète pas, tu n'y resteras que quelques semaines.
Vous arrêtez maintenant. Moi, il n'est pas question que je me retrouve dans votre centre pour délinquants juvéniles. Nous sommes prêts.
Pardon, chérie, mais on ne te laisse pas le choix.
Hé, hey, fiston!
Arrêtez! Lâchez-moi!
Andrew, inutile de te débattre. Ces messieurs vont t'aider à t'habiller avant de t'emmener au centre. Tu comprends?
On s'en occupe. Vous inquiétez pas.
Non, attends! Maman, je suis désolée,
oh,
pardonne-moi,
chérie,
je t'en
tout
prie.
Se passera bien, je te le promets.
C'est toi qu'on a eu l'idée.
Espèce
Arrête,
de...
Arrête, je t'en prie. Chérie, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, maman t'aimera toujours.
Allez, on y va.
Mais Brie, c'est un personnage, moi, que j'ai toujours trouvé dur à avaler, quoi, et notamment dans sa relation avec ses enfants.
Oui, complètement. Et c'est ça qui est très particulier dans cette série, parce que on peut regarder effectivement juste les côtés drôles, les scènes amusantes. Moi-même, hein, même encore dans la saison 6 ou la 7, y a des passages où je me suis beaucoup amusé à les regarder. Mais quand on regarde assez froidement les personnages, ils sont terribles tous, en fait, autant qu'ils sont. Non seulement par rapport à tous les mystères et toutes les intrigues policières qu'ils traversent, qui font que ils ont chacun un cadavre dans le placard, et ce qui est un petit peu difficile à avaler au bout d'un moment, parce qu'ils sont tous responsables de la mort de quelqu'un. Faut déjà vivre avec ça. Et puis, effectivement, Brie, qui est hyper dure avec ses enfants, qui leur permet pas de vivre de leurs propres ailes. Dès qu'il y en a un qui sort des rangs, hop, on l'envoie en camp. Ou alors on l'abandonne sur une aire d'autoroute.
On s'approprie son enfant.
Voilà, oui, voilà. Quand son fils veut vivre en couple avec un autre homme et qu'il décide d'aller vivre ailleurs, elle achète la maison d'à côté pour être sûre qu'il reste à côté de lui. Donc c'est la mère castratrice totale.
C'est un personnage qui, personnellement, me fait encore plus peur que la Kimberley que Marcia Cross jouait dans Melrose Place, finalement.
Oui, parce qu'elle est présentée comme un personnage foncièrement bon, parce qu'on rajoute à côté de ça des scènes où on se dit « Oh mon Dieu, elle est attachante, etc. » Mais quand on regarde purement les faits, elle est horrible, en fait.
Oui, et moi, en tant que féministe, hein, donc revendiquée, je viens de le faire là, ça m'a fait hurler, cette série, souvent.
Oui, l'image de la femme est assez terrible, parce que a priori, c'est vrai qu'on pourrait se dire série féministe, on a pratiquement que des femmes dans les rôles principaux.
Et des cadras.
Voilà, et des cadras.
Effectivement pas,
qui n'étaient pas gagnés. Mais le portrait de la femme qui est tirée est assez peu reluisant. Alors on a la castratrice, la médisante, égoïste, étouffante, idiote ou naïve quand c'est Suzanne, manipulatrice, flirtant avec les limites de la loi pour protéger ses enfants à tout prix, alcoolique éventuellement. Donc qui voudrait d'une femme comme ça? Je n'en sais rien. En tout cas, Mark Cherry a vraiment des problèmes avec les femmes, clairement.
Avec sa mère.
Et excepté, j'ai l'impression, Lynette Scavo, c'est des femmes qui ne sont pas nécessairement très impliquées dans leur travail ou qui n'en ont même pas. C'est clairement, oui, des Desperate Housewives, des femmes au foyer, mais c'est quoi cette image de femme au foyer? C'est pathétique quand même.
Oui, c'est assez pathétique. Et puis surtout, en plus, on se permet de juger le style des autres femmes. Parce que celles qui ne sont pas dans le rang, donc elles vont toutes passer par un moment où elles vont travailler, même Brie, c'est pas bien vu en fait finalement de travailler. Alors soit on a un boulot minable comme Suzanne, soit on devient une femme businesswoman, mais alors on n'est plus là pour ses enfants, donc on est automatiquement une mauvaise mère, on est automatiquement une mauvaise femme. Si on est libérée sexuellement et indépendante comme Eddie, on est forcément une garce qu'il faut à tout prix éliminer. Au début, ça me faisait rire, effectivement, les bisbrouilles entre Suzanne et Eddie pour essayer d'avoir Mike. Et j'ai cette scène qui m'avait marqué où les quatre Desperate Housewives arrivent chez elle et lui disent « Maintenant, il faut que tu quittes la ville parce que t'es plus gérable ». Bah non, je fais encore ce que je veux, quoi. C'est assez fou.
Je suis chez moi ici.
Voilà, les femmes d'affaires, elles sont forcément carriéristes. Les nonnes sont aussi vues comme des intrus éliminés. Les prostituées n'ont pas vraiment un meilleur traitement de faveur parce qu'elles sont toutes regardées avec méfiance. Une fille difficile à éduquer, bim, on l'envoie aussi en pensionnat. Donc
et
ça.
Et les bimbos finalement vivent au crochet de leur mari et ont des amants.
Oui, ça c'était aussi moi quelque chose qui me marquait beaucoup. C'était en fait ces femmes n'existent que par leur relation avec des hommes. Elles ne recherchent que ça, un peu comme la pipelette qui cherche le prince charmant. Mais en plus, tu l'as dit, elles leur mentent, elles les manipulent, elles leur piquent leur fric. Elles sont castratrices dans le cas de Brie, elles sont idiotes dans le cas de Suzanne. Il n'y a pas de couple à égalité. Il n'y a pas.
Le seul couple qui tient un peu la route et qui est assez chouette, c'est Lynette et Tom. Et encore, elle devient vraiment hyper castratrice par rapport à ça, et ce qui fait qu'il va partir à la fin de la saison 7. Autre chose à côté de l'image de la femme, c'est l'obsession du repli sur soi. Desperate Housewives est très symptomatique de notre époque et du repli des gens. Tous les personnages semblent évoluer en vase clos. Et on a vraiment Wisteria Lane, et tout ce qui vient de l'extérieur est automatiquement étranger et automatiquement vu comme une menace. Un étranger qu'il faut absolument surveiller. Et en plus, surtout à raison, puisqu'en plus, il sera toujours porteur d'un secret inavouable qui va semer la zizanie ou la panique dans le quartier. Donc on se replie sur soi un maximum. Et là, je trouve que c'est une belle analogie des États-Unis de Bush. Mais ce qui est assez dommage, c'est que les scénaristes n'aient pas profité de ça pour en faire la critique. Ils le font au premier degré.
Et ils ont d'autant moins d'excuses que plein d'ouvrages théoriques ont montré le lien qui existait entre les valeurs républicaines conservatrices et les années 80 des séries comme K2000, l'agence au risque, etc. Et donc aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on apprend quand même des choses qui sont passées avant et qu'ils auraient pu faire de la post-moderne télévision, c'est-à-dire travailler justement sur le discours qu'ils avaient, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc c'est quand même une série très, effectivement, comme tu le dis, Bush, républicaine, conservatrice.
On notera quand même qu'en avril 2005, lors d'un gala à la Maison Blanche, Laura Bush a dit qu'elle était une Desperate Housewife. Donc, clairement, voilà, la filiation est faite.
Est-ce qu'elle couche avec son jardinier?
Je ne sais pas. En plus, dans l'Amérique de Bush, c'est l'apologie de se faire justice soi-même. Oui. Ça, c'est très fort. On est vraiment dans une sorte de western, en fait, contemporain. Vu toutes les épreuves, on pourrait s'attendre à ce que les Desperate Housewives passent leur temps au tribunal ou chez les flics, etc. Non. Les institutions sont totalement inexistantes. Et alors, quand elles entrent en scène, elles sont perçues comme abusives, intrusives, voire même dangereuses. La plupart des policiers policiers qui commencent un peu à rentrer dans l'histoire des Desperados sont toujours des obsessionnels de premier plan. Et à chaque problème rencontré, on ne va pas voir les flics. Non, on prend les armes et on part en guerre, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de garder une image lisse, propre. Le summum pour eux de l'ignominie, c'est d'avoir cette réputation salie. Et ça, c'est vraiment fort, quoi. C'est se dire, voilà, j'assume pas mes actes. Il faut absolument que je cache tout. Et que, bon, évidemment, c'est le concept de la série, mais c'est tellement poussé au paroxysme que ça en devient désagréable, en fait, à regarder.
En tout cas, en t'écoutant, c'est presque effrayant.
Oui. Est-ce
que la fin est à la hauteur de la mauvaise réputation de la série?
Ah oui, là, elle est à hauteur de la mauvaise réputation de la série, parce qu'alors là, je crois qu'on ne pouvait pas à ce point rater, c'est ça presque un cas d'école de rater à ce point une
des finales. Pire fin de série que j'ai pu voir dans ma vie.
Une sorte de hommage, ou en tout cas parodie, ou repompe de Six Feet Under. Donc on voit ce que les personnages deviennent après avoir quitté Wisteria Lane. Mais la mayonnaise ne prend pas, et on peut pas croire qu'ils aient pensé à ça depuis le début, parce que Mark Cherry se défendait d'avoir toujours imaginé la fin de sa série quand il l'avait commencé. Franchement, si...
J'en viens à douter des déclarations de cet homme.
Étrangement. Donc non, malheureusement, la fin de la série, je crois que vaut même pas la peine qu'on s'y attarde, parce que c'est une catastrophe.
Tout ça pour ça.
Ouais, donc j'avais raison, en fait, j'ai bien fait de regarder que la première saison.
Exactement. Si vous voulez regarder Desperate Housewives, arrêtez-vous à la fin de la première saison.
Ce sera le mot de la fin. On espère en tout cas vous avoir un peu éclairé sur cette série et vous l'avoir fait vivre sous un œil un peu différent. On se retrouve très bientôt pour un prochain dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.